Bonjour Blanche d'Harcourt. C'est l'émotion, c'est le soleil. Il y a un peu de bruit autour de nous parce que le concert s'est terminé. On est à Aigvert. Et puis le public est très expressif dans les émotions. Donc on va parler le mieux possible. Vous nous consacrez du temps. Vous êtes directrice de l'Académie Seiji Ozawa en Suisse. Il vous a passé le flambeau. Mais avant ça, vous avez un parcours. Donc vous avez, j'ai lu que vous avez étudié avec Elena Costa et avec Jean Fascina. Ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté dans votre parcours? Qu'est-ce que vous avez reçu comme transmission de leur part?
Alors, Elena Costa, c'était au Mozarteum de Salzbourg. Oui. J'étais beaucoup plus jeune. C'était une musicalité très inspirante. Et Jean Fascina, là, il m'a changé ma vie complètement. Parce que c'est quelqu'un qui avait toutes ses études en Pologne. Il étudiait avec un élève de Paderewski. Et il avait l'habitude donc de nous faire refaire toute la technique selon la méthode qu'il avait apprise en Pologne. Et donc j'ai eu l'impression de renaître. C'était une renaissance un peu pour moi, ces années passées avec Jean Fascina.
Une méthodologie totalement différente?
Complètement différente, et tout d'un coup ça a libéré beaucoup de techniques très... C'est quelqu'un qui avait vraiment fait le tour d'une question, enfin, de question technique qu'il avait appris avec ce professeur, qui était très différent de ce qu'il y avait en France à l'époque. Et c'était une expérience très, très enrichissante. Pour moi, vraiment une renaissance.
Dans votre cursus, vous avez donc reçu l'enseignement à la française, l'enseignement Mozarteum de Salzbourg et l'enseignement avec une tonalité polonaise. Est-ce que tous ces apports vous ont fait modifier aussi votre façon d'aborder votre instrument?
Complètement, mais surtout avec Jean Fascina. Tout à fait.
Et est-ce que, parce que je n'ai pas eu d'informations à ce sujet, vous êtes d'une famille de musiciens ou seulement de mélomanes?
Non, des gens qui aiment la musique, mais personne de ma famille n'a jamais pratiqué aucun instrument. Mais j'avais, d'après, enfin, ça peut paraître pas forcément... Mais d'après ma mère, il paraît que quand j'étais un bébé, qu'elle mettait un disque, j'arrêtais toute activité, je resterais prostré. Voilà, je vous répète bêtement ce qu'on m'a dit. Et par chance, ils écoutaient beaucoup de disques de Clara Askill, Dino Lipati. Donc je pense que ça a été imprimé un petit peu.
Donc la musique vous a révélé aussi dès le jeune âge?
Ah, je ne me suis jamais posé de questions, j'ai toujours rêvé de faire de la musique.
Et Blanche d'Harcourt, le piano, ce choix, vous pouvez nous le confier? Sur quoi est-il venu? Est-ce qu'il y a d'autres instruments que vous ont d'abord attiré, ou ça a été tout de suite le piano?
Écoutez, mon père était professeur de philosophie, on habitait dans la campagne en Provence, au pied de la montagne Sainte-Victoire, et il y avait une maison voisine où quelqu'un travaillait le piano. J'étais très timide, mais j'allais regarder derrière la vitre, j'étais déjà fascinée par l'instrument lui-même, sans entendre de son, mais ça me fascinait. Et ça a commencé comme ça, plus les disques qu'écoutaient mes parents. Je regardais la couverture pendant des heures et j'étais prise par la musique du piano. Et à l'époque, c'était Dino Lipati.
Et dans votre parcours, on imagine que vous avez fait jouer sans doute plusieurs compositeurs. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont tout de suite totalement fait vibrer?
Oui, beaucoup. J'aime beaucoup Bach, Mozart, bien sûr, peut-être le romantisme allemand, Schubert en particulier. Parce que c'est un romantisme, mais en même temps il y a une très grande pudeur, une profondeur, quelque chose qui me touche profondément. Et aussi parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec une chanteuse d'opéra, Maria Fausta Gallemini, et qu'on lisait régulièrement. On a énormément travaillé le répertoire de Lieder, de Schumann, Schubert. Et on passait des journées entières à parcourir toute cette littérature et composition. Pour moi, c'était vraiment l'essence même de la musique.
Nous sommes à Aigvert, où le concert vient d'avoir lieu. Vous êtes, comme je le disais en début d'entretien, la directrice de l'Académie Seiji Ozawa. Il vous a passé le flambeau. Qu'est-ce qu'il vous a aussi apporté en tant que personne et en tant que chef d'orchestre?
Ah là, c'est tout un chapitre, parce que Seiji Ozawa, je l'ai connu en 79, parce que la chanteuse Maria Fausta Gallamini, avec qui je travaillais à l'époque, chantait dans l'enfant, le rôle de l'enfant dans l'enfant les sortilèges à l'Opéra de Paris. Et c'est Giozawa qui dirigeait. Et puis ensuite, il nous a invités en duo au Japon pour une tournée de leader, justement. Donc c'est par l'intermédiaire de cette chanteuse que... Et puis ensuite, j'ai travaillé avec lui, je fais travailler des acteurs pour la production de Jeanne d'Arc au Bûcher. Honegger. Et c'est un texte de Claudel. Et en fait, c'est comme... Les rôles principaux sont tenus par des acteurs, mais qui pour la plupart ne connaissaient pas la musique. Donc il m'a demandé de les faire travailler. Et puis, ensuite, ils se sont produits à Boston. Et là, j'ai rencontré Marthe Keller, avec qui ensuite on a créé un duo. On a pas mal voyagé autour du mélodrame romantique allemand. Et là, il nous a invités au Japon, où il a même créé une série qui s'appelait Words and Music, les mots et la musique, où il y avait en première partie une femme qui s'accompagnait d'un instrument ancien qui s'appelle le biwa et qui s'exprimait en vieux japonais. Il y avait une énorme bougie comme unique éclairage. Et puis en deuxième partie, c'était Marthe Keller. Et... Bon, donc voilà. Alors, ça c'est pour la part, mais c'est un chef immense. C'est-à-dire que c'est le premier asiatique qui est arrivé à ce niveau. Et puis c'était vraiment... se raccrochait ni au groupe des Allemands, des Italiens, enfin des Russes, enfin peu importe. Il était vraiment seul de son espèce et il a été très tôt remarqué et il a eu des mentors absolument inouïs comme Karajan, Bernstein, Charles Munch. Donc il porte en lui toute cette tradition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a été nommé à l'Opéra de Vienne, à l'époque, on s'occupait d'un festival en Belgique avec un pianiste appelé Olivier Roberti qui avait créé ce festival. Et je lui avais dit, mais ça serait, si jamais il était en famille à Vienne, on parlait de ce festival. Il a dit, mais écoute, je suis là avec ma famille, des rencontres musicales d'Anguien, je suis avec ma famille, on va passer voir. Donc il est passé avec sa famille. Et puis il a accepté de devenir membre d'honneur, parce que c'était vraiment déjà un énorme cadeau. Et quand il a été nommé à Vienne, on avait été approché pour monter quelque chose en Suisse. Et alors on lui a demandé s'il serait aussi, il pourrait nous parrainer. Et là, il a dit, mais je viens de créer une académie au Japon. J'adore ça, c'est quelque chose qui me rend très heureux. Et en fait, j'aimerais pouvoir faire... créer la même académie en Europe. Alors évidemment, pour nous, c'était énorme, enfin, que quelqu'un comme lui puisse... Et alors évidemment, on s'est complètement rangé à son idée, à sa conception, à tout. Et c'est comme ça qu'est née l'académie en Suisse.
Avec le trio Arnold, qui s'est exprimé juste avant vous, il nous disait que son enseignement avait cette particularité de faire sentir la nature des éléments, de se prendre le temps, de savourer l'expression dans la musique, par exemple d'un souffle de vent, d'un bruissement de feuilles. Il essayait de toujours voir la poésie dans la musique qu'il enseignait.
Mais Seiji Ozawa, c'est quelqu'un qui avant tout est très inspiré. Il n'a pas de méthode ou d'approche rationnelle. Il est totalement inspirant pour des jeunes. C'est exceptionnel. Mais il suffit d'un regard, d'un geste avec deux doigts, et ce qui était incroyable. Et puis il ne laisse rien passer, c'est-à-dire que le travail ne s'arrête jamais, c'est tout le but de cette académie, c'est-à-dire qu'il faut aller au plus profond de la musique. Il a ça vraiment incarné en lui, et en même temps c'est... il y a un souffle, une énergie chez cet homme, et puis une profondeur. C'est quelqu'un qui a un esprit incroyable, et puis c'est pas quelqu'un qui utilisait des mots, mais plutôt des images. Mais surtout, il incarnait tellement tout qu'il suffisait, je vous dis vraiment, mais d'un regard. Et ces jeunes réalisaient absolument, ils étaient complètement captivés.
Il est très affaibli, on le dit un petit peu isolé maintenant parce qu'il ne peut plus tellement diriger. Il a encore dirigé en novembre 2022. pour rendre hommage à l'astronome japonais dans l'espace. Vous avez l'occasion de le voir depuis que vous avez passé le flambeau.
Alors, on communique beaucoup par des vidéos. Sa fille, et il est notre président du conseil de fondation, sa fille est rentrée aussi au conseil de fondation, donc on est en relation permanente. Et là, je lui envoie tous les jours des vidéos pour qu'il suive la progression d'Équateur, parce que ça le passionne et ça lui tient très à cœur, parce que pour lui, tout ce qu'il veut, c'est que cette académie change la vie du musicien qui on est en relation
quotidienne.
Ah oui, bien sûr. Et là, il y a eu le concert avec le chœur des Armaillis de la Gruyère, bien sûr que j'ai envoyé des vidéos. Et aujourd'hui, même chose. Vous voyez, il va être très touché parce que j'avais à côté de moi la mère d'Egbert. Et elle m'a dit que pour elle, Seiji Ozawa était un magicien. Et alors qu'elle l'a pas, il n'est pas venu depuis presque 10 ans ici. Donc, pour vous dire l'empreinte qu'il a laissée à Egbert, c'est formidable. Il va être très touché quand je vais lui raconter ça.
Parce qu'en fait, la base même de sa mission et de son académie, c'était de transmettre un maximum de personnes qui ne sont pas forcément exposées à la musique classique, de pouvoir la découvrir et l'apprécier.
Ah, bien sûr. De toute façon, on est dans la transmission complètement et puis dans le partage. C'est-à-dire que lui transmet ce qu'il a reçu des plus grands maîtres, il veut en faire profiter tout le monde. Il a choisi des professeurs qui eux-mêmes sont qui viennent depuis 20 ans, tous les ans, qui ont été les disciples du professeur qu'il a eu aussi au Japon, et il sait qu'ils vont transmettre ce qu'ils ont reçu aussi de leur propre maître. Et puis il y a des valeurs, et il trouve que ça fait partie de la vie du musicien d'aller vers ceux qui sont, pour des raisons ou autres, empêchés de venir au concert.
Accéder.
Et tout. Et puis, vous savez, il est très heureux aussi parce que tous par exemple, les recettes du concert à Victoria Hall sont reversées à la Fondation Partage. Les concerts à la Fondation Gianada Martini, c'est l'entrée est gratuite. Et on a eu des témoignages de gens qui sont venus, qui ont écrit à M. Gianada en disant que grâce à lui, ils avaient accès à ce concert. Sinon, on n'avait pas les moyens d'y aller. Ils ont été bouleversés par ces jeunes. Tout ça, ça nous remplit de joie, et lui aussi, parce que ça donne tout le sens à son académie. C'est pas seulement l'excellence, c'est le partage aussi.
Blanche Darcourt, vous mentionnez justement la dimension philanthropique à travers la Fondation Gianada ou les recettes du Victoria Hall qui sont reversées. Donc il y a toute cette dimension pour aussi permettre, là, votre attaché de presse me parlait d'un jeune garçon de 11 ans, 12 ans, qui va venir au Victoria Hall, qui est malvoyant, non-voyant, et qui sera aux premières loges pour pouvoir écouter le concert, mais avant, il pourra avoir touché les instruments.
Oui, justement, avant, on l'a invité. Vous savez, avant le concert, on donne toujours une pizza parce que les jeunes n'aient pas trop faim. Et tout ça. Donc on l'a invité à venir avec nous, et puis comme ça, il va aller rencontrer les musiciens, toucher quelques instruments, selon son envie. Mais on est très heureux de le recevoir.
Et parlez-nous, en tant que directrice de l'académie, vous avez la fonction déjà d'occuper de tout le pan artistique par rapport aux académiciens, et aussi de la recherche, de partenariats avec des fondations. Pouvez-vous nous expliquer tout ce que vous faites pour l'académie, s'il vous plaît ?
Bon, c'est une grosse organisation. On a un bureau à Genève qui est dirigé par Anne-Sophie Devecq, qui fait un travail considérable pour tout ce qui concerne l'administration, l'organisation, parce que c'est une grosse machine. Alors la recherche de fonds, c'est un sujet sensible, parce qu'en fait, entre le mécénat d'il y a 20 ans et aujourd'hui, ça a beaucoup changé.
Déjà eu la pandémie entre les deux.
Et il y a eu la pandémie entre les deux, et en fait, on est un petit peu en recherche de fonds, en difficulté entre guillemets, parce que la pandémie a été un peu catastrophique de ce point de vue-là.
Un coup de grâce pour la culture.
Oui, absolument. Et donc en fait, en même temps, il y a un tel vivier, enfin, tout ce qui est artistique, vraiment, marche très très bien. Donc je pense que la nature du mécénat a changé, et donc il faut qu'on se... Et on nous a reproché à juste titre, je dois dire, d'être resté trop confidentiel. On a voulu maintenir quelque chose de très pur, comme ça, vraiment. Et puis là, maintenant, cette année, on a investi un peu plus dans la communication, parce que si on communique plus, on est... Donc on espère que notre... trouver de nouveaux aussi partenariats, se faire connaître, près de plus. Parce que tous les frais des jeunes sont pris en charge par la Fondation. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN, parce que ce serait sinon une académie pour gens très aisés, c'est pas le but. Donc on organise des auditions, on essaie de se rapprocher des talents, c'est-à-dire à Berlin, parce qu'il y a tous les pays de l'Est qui ont plus facilement accédé à Cologne, parce que c'est une ville centrale en Europe et qui n'est pas trop chère pour les jeunes, et puis à Paris. Et l'idée, c'est effectivement, et puis eux-mêmes, même s'ils ne sont que 24 musiciens, tout ce qu'ils vont apprendre ici rejaillira dans leur environnement musical par la suite, qu'ils soient enseignants, faisant partie d'orchestre, solistes ou en musique de chambre. Il y aura un rayonnement comme c'est déjà le cas. Donc, et puis nous préparons la relève aussi avec d'anciens étudiants. Il y en a deux parmi eux qui sont devenus professeurs depuis l'année dernière. Parce que tous ceux qui veulent revenir, c'est comme un atelier, pour travailler une œuvre ou quelque chose, sont bienvenus. Et puis ils donnent un coup de main, ils aident les quatuors les moins expérimentés. Puis on essaie de voir comment ils évoluent et tout. Et puis on prépare comme ça la relève. C'est vraiment le temps long, cette académie. Et puis c'est là où je veux dire que je suis optimiste, c'est que les graines qui ont été plantées par ces Jawa commencent à donner des fruits. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, lui, c'est
le comble.
Ah oui, c'est quelque chose de très très important. Et donc, c'est tout le sens de cette académie. C'est vraiment prendre le temps d'aller au fond de la musique, c'est le temps long de voir, et de voir que ces graines commencent à donner des fruits ou des fleurs.
Et des pousses. Absolument. Et vous mentionnez les quatuors, mais certaines graines sont devenues des trios, comme le trio Arnold, qui disait, on a appris avec Seiji Ozawa et son académie à travailler très peu de mouvements, de se concentrer sur certains mouvements et donc toute l'œuvre, mais de vraiment prendre le temps, justement, de s'imprégner, de connaître, de comprendre.
Mais oui, parce qu'en fait, vous avez parmi eux parfois des solistes qui jouent déjà avec des grands orchestres, avec des chefs. Et là, on leur demande, pendant 2 semaines, de se concentrer que sur 2 mouvements. Alors parfois, ils arrivent en disant, mais enfin, vous vous rendez compte, 2 mouvements, nous, d'habitude. Et puis en partant, ils disent, on a encore trouvé des choses, donc il reste encore. Donc, c'est le but est atteint, c'est-à-dire qu'il faut... Quand on va en profondeur dans la musique, mais le travail ne s'arrête jamais. C'est ça qui compte. Et après, ça change leur façon d'aborder les œuvres, qu'elles soient solistes, musique de chambre et tout. Ils l'abordent différemment parce qu'ils ont cette volonté d'aller toujours plus en profondeur. C'est ça qui compte dans un monde où tout va très vite. Nous, on est un petit peu à rebrousse-poil de ce qui se passe ailleurs.
Prendre le temps.
Et c'est un luxe, finalement. Absolument.
Et en tant que directrice, vous avez parlé de votre fonction du côté artistique et de votre fonction pour la recherche de fonds qui est devenue plus ardue. Est-ce qu'il vous reste du temps en tant que pianiste, à la fois en tant que soliste et en tant que concertiste ?
Oui, alors j'ai un petit peu, pour des raisons personnelles, changé un petit peu de vie quand je suis devenue mère. Mais bien sûr, je garde du temps. Je ne suis pas... Maintenant, je pense que c'est aussi un privilège d'être au contact de la jeunesse. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a quelques urgences aussi. Donc, je tâche de partager le temps entre le piano et l'académie, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi donner du temps pour cette jeunesse. Ça me paraît très important parce que je pense que l'académie, sans vouloir que ce soit trop prétentieux, parce que c'est l'idée de Seiji Ozawa, je m'aperçois qu'elle est de plus en plus nécessaire. De plus en plus à rebrousse-poil, mais de plus en plus nécessaire, donc c'est aussi une priorité quand même.
Si je vous comprends bien, Blanche Larcourt, plus nécessaire, de plus en plus prioritaire, parce qu'il y a une demande et une attente de la part de cette jeunesse.
Une demande de plus en plus grande. De plus en plus grande, et on essaie du coup, on a créé ce département des seniors qui ont toujours besoin de cette exigence et ce travail, et donc finalement une époque où... Enfin, je ne peux pas imaginer que... Enfin, il faut tout donner pour que cette académie puisse être pérenne, préparer la suite, et puis trouver des mécènes qui comprennent, même s'il n'y a pas de retour commercial du tout, il n'y a rien de tout ça, c'est l'éducation pure. Mais c'est... Je pense que c'est vital pour beaucoup de jeunes, de plus en plus. Ce sont les témoignages que je reçois chaque année un peu plus.
Et comme vous le disiez, certains académiciens deviennent professeurs au sein de l'académie. Ce sont des offres spontanées ou ça s'élabore au fil des années ?
Non. D'abord, il faut avoir été académicien pendant... Là, ceux qui sont professeurs sont venus 10 à 13 ans. Donc, ils sont imprégnés de ce qu'ils ont appris à l'académie. Ils sont formés par les professeurs de l'académie. Ils ont été aussi choisis par Tsujiozawa qui les a vus. Et donc, ils ont cette mission aussi. Et en plus, on a le temps de voir ce en quoi ils sont les meilleurs et le plus heureux. Donc là, vraiment, je veux dire, c'est formidable parce qu'ils sont... C'est comme... Comment dire, c'est l'académie dans l'académie, donc ils se forment au contact des professeurs et en même temps ils les assistent et en même temps ils sont au point de vue génération une étape parce qu'il y a toutes les générations, il y a les jeunes, eux ils sont un peu moins jeunes mais quand même encore jeunes, il y a les professeurs, donc vous voyez, toutes les générations sont représentées. Donc
il y a aussi une sorte d'alchimie qui se fait entre professeurs académiciens et entre les générations.
Ah oui, bien sûr. Parce que
Non, parce qu'on parle par exemple d'académiciens seniors qui sont en fait relativement jeunes malgré.
Les trios Arnold par exemple, ils sont jeunes, mais vous voyez là ils sont venus, là ils ne jouaient pas ce matin au concert, mais ils sont venus pour parce que c'est Ekvert, parce que ça les touche, parce qu'ils ont vécu ça pendant beaucoup d'années. Moi ça me touche aussi qu'ils soient là.
Et... Oui, il mentionnait la relation avec un public qui ose s'exprimer, qui se met à danser. Qui n'a rien à voir avec le public d'une salle classique.
Non, mais Marc, il y a une réceptivité, une sensibilité à fleur de peau et qui, bien sûr, qui communiquent leurs émotions de façon... mais c'est très, très touchant. Enfin, moi, on sent qu'ils sont... Parfois, ils reçoivent presque plus qu'un public plus habitué aux concerts et tout. Vraiment, ça les touche. Alors, ils manifestent, c'est vrai... leur émotion.
Alors, Blanche Darcourt, vous avez mentionné tout à l'heure Marc Keller, avec laquelle vous avez eu plusieurs rencontres, puisqu'il y a eu ensuite la musique romantique allemande après, justement, Honegger. Vous avez oublié de mentionner Cécile de France. Vous avez travaillé avec elle. Vous avez travaillé sur la correspondance entre Schumann, les Schumann.
Tout à fait. C'était un spectacle qui était monté sur la vie de... la correspondance de Robert et Clara Schumann. Et c'est vrai que c'est une actrice, elle aussi, elle a un instinct incroyable. Parce que je ne pense pas qu'elle connaissait très bien, mais ses choix étaient tellement justes.
Sensibilité,
c'était un grand plaisir de travailler avec elle. Et il y avait, comme chanteuse, il y avait Mitsuko Shirai, qui est japonaise, justement. C'est une femme extraordinaire, d'ailleurs, qui avait travaillé aussi avec Tsujiozawa et tout. Je rêve d'ailleurs de la faire venir un jour à l'académie. Et qui, elle est japonaise, mais c'est vraiment... Elle a une connaissance du répertoire de leader exceptionnel. C'était une femme. Donc, c'était une rencontre assez... Je garde très bon souvenir, mais je vois que vous connaissez. Ça remonte à quelques années, ça.
Il fallait le mentionner. Blanche Darcourt, l'Académie vient de donner au Château de Rolles toute une série de concerts qui étaient ouverts au public avec les académiciens. Là, on a Ekvert aujourd'hui. Et comment s'est passée cette dizaine de travail avec les académiciens cette année? C'est cette dizaine de jours qui vient de se dérouler au Château de Rolles avec les académiciens. Oui. Vous pouvez nous mentionner comment s'est déroulée cette rencontre avec ces académiciens de cette année 2023?
Alors, ils ont commencé, ça fait une semaine pratiquement.
Ah, vous avez dépassé un petit peu.
Non, ça fait une semaine. Alors en fait, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc, ils arrivent. Le matin, ils travaillent entre eux. Donc le premier jour, ils apprennent un petit peu à se connaître à échanger les idées, parce que c'est un échange. Si vous voulez, la difficulté, pourquoi pour Seiji Ozawa l'étude du quatuor est si importante, c'est que c'est pour lui la structure de base de la musique classique. C'est un répertoire essentiel, très très riche, essentiel, et elle exige une écoute mutuelle. Et la difficulté du quatuor, c'est qu'il faut trouver un son commun. Donc, vous voyez,
c'est comme des torrents qui doivent trouver leur affluent et finir dans le même fleuve.
Exactement, exactement. Donc, ça veut dire échanger des idées, arriver à convaincre d'être vraiment les autres, que c'est, son idée est la meilleure, et puis c'est une écoute permanente, mutuelle. Donc, lui, il trouvait que pour devenir un artiste vraiment accompli, c'était une étape indispensable. Parce que l'écoute, cette écoute-là, vous en avez besoin, que vous jouiez en soliste, en musique de chambre ou dans l'orchestre. Et donc, le matin, ils travaillent entre eux. L'après-midi, ils sont coachés par les professeurs choisis par Seiji Ozawa. Et le soir, après le dîner, ils se regroupent tous et ils sont dirigés dans une œuvre pour orchestre par Kazuki Yamada. Donc vous voyez, on travaille matin, midi et soir. C'est assez une atmosphère qui est à la fois familiale et assez monacale parce qu'on est tous hébergés grâce à la commune de Rolles qui est vraiment fantastique et qui nous a mis à disposition le château de Rolles. Imaginez, c'est tellement... Et il n'y a que des tables et des chaises. Donc ils travaillent le matin, on déjeune tous ensemble. Ils retravaillent toute l'après-midi, on dîne tous ensemble et le soir avec...
C'est comme un séminaire, effectivement, monacal.
Absolument. Mais il y a une atmosphère familiale, il n'y a pas d'esprit de compétition.
C'est bienveillant et convivial.
C'est très bienveillant, c'est très convivial. Et on est là pour s'aider les uns les autres. Il n'y a pas de hiérarchie spéciale. Tout le monde a son plateau, remet son plateau. Enfin, c'est vraiment... Oui, c'est assez... Mais... En fait, ils se rendent compte, parce qu'ils se, en plus, tous leurs frais sont pris en charge, donc tout est créé, les conditions sont créées pour qu'ils puissent avoir les meilleures conditions de travail et en profiter, et intégrer tout ce qui leur sont donné le plus possible.
Favoriser une émulation.
Oui, bien sûr.
Vous avez mentionné que quand vous êtes devenu maire, vous avez dû un peu changer votre orientation par rapport au piano, mais vous poursuivez bien sûr dans cette voie.
Oui, bien sûr, mais pas avec
autant d'intensité que vous le souhaitiez.
Alors, parce que parfois je me sens un peu frustrée, mais en même temps, non, j'essaie de garder le plus possible de temps, mais en même temps, je me rends compte que. Il y a aussi une question d'utilité. Je me sens aussi utile. Enfin, j'ai l'impression
Et nécessaire à l'académie.
Oui, je pense. Enfin, du moins, disons que la cause des jeunes est vraiment, c'est vraiment très utile pour eux.
Et par rapport à ce qui est à venir, ça, là, on parle de l'académie, nous sommes à Aigues-Vertes aujourd'hui, et vous pouvez nous dire ce que vous avez pour les mois et peut-être jusqu'à la fin de l'année dans vos projets pour l'académie. Pour les académiciens et pour bien sûr.
Alors déjà de pérenniser l'académie, ça c'est tout à fait un problème, résoudre des problèmes financiers. Alors déjà l'année prochaine nous fêtons les 20 ans de l'académie. Donc ça va être.
Un gros anniversaire.
Donc j'aimerais. On est en train de travailler à la programmation, faire revenir justement des anciens. Le bus va partir. Essayer de faire une programmation qui regroupe un tout peu ceux qui ont compté dans les 20 dernières années.
Merci, Blanche Darcourt.
Merci beaucoup, merci vous.
Attendez.
Thomas peut te poser.
C'est bon. Mais je vous demande juste une petite dédicace pour ma fille, qui fait du violoncelle et du chant classique.